BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Un numéro consacré à la crise des migrants, car ce lundi 7 mars a lieu ici, dans la capitale européenne, un sommet entre les 28 et la Turquie pour parler de cette crise migratoire exceptionnelle. Avec nous, deux eurodéputés qui se sont rendus le mois dernier en Turquie pour voir par leurs propres yeux la situation sur le terrain. Bonjour Sylvie Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée socialiste, vous êtes vice-présidente du Parlement européen. Si on ne se met pas d'accord avec Ankara, là, lundi, qu'est-ce qui se passe?
La crise de nerfs continue et les solutions n'aboutissent pas. Les populismes augmentent, les peurs sont agitées et finalement, le sort de plusieurs millions de personnes reste suspendu à des égoïsmes nationaux. Je pense qu'il y a moyen de trouver un accord, il y a moyen de faire en sorte que chacun se tire vers le haut, mais il faut faire beaucoup de travail de reconnaissance mutuelle.
D'accord, et le chiffon rouge agité par certains Turcs à la veille de ce sommet, c'est de dire que si il n'y a pas d'accord, eh bien des millions de réfugiés aujourd'hui retenus dans les camps turcs pourraient débouler en Europe. On rappelle qu'il y a 3 millions de réfugiés syriens, 2 millions et demi, 3 millions actuellement en Turquie. Bonjour Jean Arthuis.
Bonjour.
Vous présidez la commission des budgets du Parlement européen, vous êtes également rendu il y a quelques semaines en Turquie. Vous, c'était plutôt pour voir comment la Turquie gérer l'argent européen. La Turquie qui perçoit chaque année 650 millions ouais. d'euros au titre des fonds de préadhésion, ouais. car on rappelle, la Turquie est candidate et la Turquie qui s'est vue promettre au mois de novembre dernier, à l'occasion d'un dernier sommet avec l'Union européenne, une enveloppe de 3 milliards d'euros justement pour accueillir ces réfugiés. Dans votre rapport suite à cette visite, je vous lis, sur les 22 millions d'habitants que comptait la Syrie en 2011, plus de 8 millions sont réfugiés dans les pays limitrophes, Turquie, Liban, Jordanie, 4 millions soutiennent le régime. 8 à 10 millions sont déplacés à l'intérieur de la Syrie en route vers l'Occident où la radicalisation, la menace est lourde pour l'UE. Dites-vous dans votre rapport, la crise des réfugiés peut-elle déclencher une pédagogie en faveur d'une intégration politique en Europe? C'est votre question. Est-ce que vous avez un élément de réponse?
Pour l'instant, non. J'attends beaucoup de ce sommet du 7 mars. Je constate quand même que nos chefs d'État et de gouvernement ont réussi à passer un sommet entier sur le Brexit, repoussant l'examen de ce dossier sur la crise des migrations et des réfugiés. Enfin, c'est une inversion dans la hiérarchie des priorités. Donc j'attends qu'on s'attaque à la source des migrations, c'est-à-dire le rétablissement de la paix au Moyen-Orient.
Si la solution c'est la paix au Moyen-Orient, a priori, il va falloir qu'on trouve des rustines d'ici là. Bonjour Charles de Marcy.
Bonjour Yann.
Vous êtes le directeur de la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. On se souvient que les Turcs, la dernière fois, dernier sommet européen, c'était au mois de novembre, avaient en quelque sorte, le mot est peut-être inadéquat, enfin quoique, profiter de la situation pour faire un pas de plus vers leur adhésion. En gros, il y avait une forme de chantage. Oui, on vous aide à vous occuper des réfugiés et des migrants, mais vous, vous nous ouvrez votre porte. Vous pensez qu'ils vont faire la même chose?
C'est toute ambiguïté stratégique, où en fait, c'est un partenaire qui est incontournable, mais pas indiscutable. Donc déjà, il y a une petite nuance. Et puis, on est tout le temps, en fait, sur ces deux leviers d'essayer de, finalement, dérouler le tapis rouge et en même temps, de mettre des lignes rouges. Et donc, ce qu'on va encore voir, probablement, la semaine prochaine, c'est cette ambiguïté stratégique entre ces deux points.
Bonjour, Nicolas Grosvéret. Alors vous êtes le patron du site internet spécialisé dans la question de défense Bruxelles 2. Ce qui va se jouer également lors de ce sommet avec la Turquie, c'est ce fameux corps européen de garde frontière. On en est où?
S'il avait existé, on n'aurait pas le problème avec les Turcs. C'est déjà ça la question. On en est qu'on accélère énormément les choses, puisqu'il y a une proposition qui était faite en décembre par la Commission et qu'il y a tout un travail qui est en train de se faire. Ça devrait aboutir avant fin juin, parce que c'est l'objectif donné, avec un corps opérationnel en juillet. Ce qui est à l'échelle européenne est assez rapide, même très rapide, pour la mise en place de quelque chose qui n'est pas juste une législation. C'est un vrai corps avec une possibilité d'intervention, une réserve opérationnelle, des budgets. On passe vraiment une autre dimension, sauf que cette dimension-là, on aurait peut-être dû la passer il y a déjà quelques mois, quelques années, et on a pris beaucoup de retard. Je pense qu'effectivement, comme on le souligne, la question de la Turquie est une fausse question. Il y a 500 000 réfugiés qui attendent le passage, ou migrants qui attendent le passage en Libye. Il y en a autant qui peuvent attendre le passage au Liban. Il y a un million de migrants que veut expulser l'Iran. Donc on a un problème majeur.
Voilà, on a un problème majeur. La question de la Turquie est une fausse question, selon Nicolas Grosvéret. Pourtant, c'est la question centrale de cette émission. Est-ce que ce sommet est véritablement un sommet crucial? Est-ce que l'avenir de Schengen est en jeu? Est-ce qu'un accord avec la Turquie va permettre de trouver une solution à cette crise migratoire? Voilà le thème de 500 millions d'Européens cette semaine pour réagir. Hashtag 500ME. Alors Sylvie Guillaume, Jean Arthuis, je le disais dans l'introduction, vous êtes rendu il y a quelques semaines en Turquie. Vous avez visité, Sylvie Guillaume, des camps. D'abord, témoignez, qu'avez-vous vu dans ces camps et dans quelles conditions vivent les réfugiés syriens qui s'y trouvent ?
Ce qui nous a été donné à voir, et je crois qu'il faut être clair là-dessus, c'est une parfaite organisation d'une partie des camps avec des containers. Un lieu de vie qui ressemble à une forme de village, un peu compartimenté, mais à une sorte de village, avec des lieux de vie collectifs, des écoles, une mosquée, un supermarché, des ateliers. Donc une partie, je dirais, très organisée. J'ai demandé à voir, peut-être par un peu d'astuce, l'autre partie du camp qui était un peu plus cachée et qui là est composée de toiles. La première partie, dans les conteneurs, il y avait 5000 personnes. Dans la deuxième, 10 000 personnes, avec un hôpital et effectivement des facilités annexes. Mais les conditions de vie étaient quand même bien plus précaires de ce côté-là du camp. Et je veux insister sur une chose, c'est que sur les 2 700 000 personnes qui sont arrivées, les Syriens qui sont arrivés en Turquie, seuls 10% sont dans les camps, qu'ils soient en toile ou en container. Les 90 autres sont dits réfugiés urbains, enfin on dit invités en Turquie, mais invités urbains. Ce sont des gens qui sont en famille, qui sont évidemment dans les grandes villes parce qu'il y a plus de ressources, qui sont titulaires d'une carte, une sorte de carte de crédit, où il y a 85 livres turcs pour se nourrir, pour acheter des choses, et qui vivent en ville. Donc évidemment, qui sont dans un état de précarité intense, avec des marchands de sommeil qui leur louent des lieux qui sont absolument inadéquats pour une vie de famille. Donc c'est auprès de ceux-là, et M. Arthuis et moi en avons discuté, c'est notamment auprès de ceux-ci et des associations qui les aident, je crois, qu'il faudrait que l'argent arrive de manière à soutenir là où il y en a besoin. Vraiment.
La Turquie, qui est désormais le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde, et même proportionnellement à sa population, les Turcs qui aiment dire aux Européens qu'ils reçoivent et qu'ils hébergent 10 fois plus de réfugiés que les Européens en termes de population. Vous, Jean Arthuis, donc Sylvie Guillaume parlait de la gestion de l'argent sur place. Est-ce que vous avez le sentiment que l'argent européen est bien géré par les Turcs? On parlait de 3 milliards d'euros, tout n'a pas été
débloqué. D'abord, pour l'instant, il y a eu très peu d'argent européen sur les réfugiés. Il y a chaque année 650 millions au titre de la préadhésion. Et l'impression que j'ai eue en arrivant à Ankara, c'est qu'apparemment, ça va pas si mal que ça en Turquie. Il y a des grues partout, des constructions partout. La croissance est à 4%. Quand on quitte Gaziantep pour aller vers les camps, on emprunte des autoroutes deux fois trois bandes. Enfin, on sent qu'il y a eu beaucoup de travaux publics. Et pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose à transiter par la Turquie pour les réfugiés, précisément, 40 millions. On a créé un fonds pour le Madad pour la Syrie. Il y a 600 millions. On a récupéré sur des soldes non utilisés des crédits de préadhésion. Donc l'Europe a un problème, c'est l'inertie et la lourdeur de ces procédures. Quand il y a le feu, il faut que les pompiers discutent le prix de l'eau avant de brancher les lances, pratiquement. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'Europe. L'une des difficultés que nous avons constatées, c'est que sur ces 2 500 000 Syriens qui sont en Turquie, il y a 700, 800 000 enfants. Et que seuls 300 000 sont scolarisés. Ça veut dire qu'on a un risque de génération perdue d'enfants qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Cet argent européen doit servir à construire des écoles, par exemple.
Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une relation de confiance entre les autorités turques et l'Union européenne. Et ceci passe par une plus grande transparence. Le problème qu'on a avec les autorités turques, c'est qu'on n'est jamais très sûr des évaluations auxquelles ils procèdent. Je crois que sans confiance, on ne peut rien faire.
Les mécanismes institutionnels de comment est-ce qu'on est arrivé à ces 3 milliards montrent aussi que cette confiance est assez rompue. En tout cas, on est sur une sorte de marchandage. Au départ, c'était 1 milliard qui était demandé sur du pluriannuel. Ensuite, on a eu 3 milliards pluriannuels, 3 milliards par an. Récemment, on a même entendu 5 milliards. Donc, indépendamment de où cet argent va être affecté, on avait le sentiment déjà qu'on essayait de tirer au maximum justement sur la répartition de cette eau ou de la couverture. Et ça se pose même un problème en termes de confiance entre les deux blocs, les deux parties. Et à ce titre-là, j'ai pas le sentiment que ce sera plus positif la semaine prochaine.
Nicolas Grosvered.
Jean Arthuis a raison en disant qu'on n'a pas le système adapté. L'Europe n'a pas le système adapté par rapport à l'urgence. On a des gros problèmes sur le front méditerranéen, parce qu'il faut appeler ça comme ça. Oui. Mais on court après chacune des crises. Donc le prochain sommet avec la Turquie va pouvoir régler une partie des problèmes, à condition que les Turcs le veulent bien. Mais on n'est pas sûr d'avoir réglé toute la question des réfugiés. Entre-temps, toutes les frontières vont se rétablir et on va être tenu comme un ver face à une autre crise qui va survenir deux jours après.
Deux choses pour ajouter à cette discussion. Effectivement, je pense qu'il y a d'autres destinataires des fonds. Quand on parle de l'éducation, c'est 6000 classes qu'il faudrait construire pour accueillir les enfants syriens, pour qu'ils apprennent le syrien, parce que sinon il y a quand même un tout petit problème d'intégration. Et 6000 classes, ça veut dire que quelque part on peut aussi cibler les collectivités locales qui sont impactées.
Ils apprennent le turc ou le syrien.
Qui vont apprendre le turc.
Non, mais c'était peut-être le syrien pour pouvoir retourner dans leur pays après.
La question, excusez-moi, mais la question se pose effectivement aussi, c'est-à-dire la capacité à s'intégrer sur le moyen ou long terme. Ce que deviendront ces gens quand si, comme on l'espère, le conflit s'achève en Syrie. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est qu'on parle de 3 milliards, de la manière de les affecter, mais en réalité, je crois que ce qui se joue, c'est qui prend la responsabilité de gérer ces personnes sur place.
Il y a également le Liban. La proportion de réfugiés au Liban par rapport à la population libanaise est encore plus importante.
En France, je crois que ça ferait 17 millions de personnes.
Il y a également la Jordanie. Et donc l'effort qui est fait aujourd'hui pour la Turquie, demain il va falloir l'accomplir de la même façon pour le Liban et pour la Jordanie. Et puis qu'est-ce qui va se passer demain si le cessez-le-feu se confirme? Il va bien falloir aider la reconstruction de la Syrie. Or là, pour l'instant, on a l'impression que les Européens n'ont rien prévu. Et qu'on est dans l'instantané, chacun à la tête dans le guidon de ces élections nationales ici en Europe. Et voilà qui génère l'exaspération des citoyens et sans doute le populisme.
Et au lieu d'aller dans le sens d'une plus grande intégration politique, en tout cas, maintenant, on parle potentiellement de la fin de Schengen. En tout cas, on a le sentiment que les Européens ont du mal à jouer collectif. On parle de la Turquie et de la crise migratoire avec ce sommet extraordinaire qui a lieu ce lundi 7 mars, ici à Bruxelles, sous la forme d'un déjeuner. À tout de suite, après une courte pause.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, avec Sylvie Guillaume, eurodéputée socialiste française, vice-présidente de l'Assemblée, Jean Arthuis, eurodéputé UDI, président de la commission des budgets, Charles de Marcy, directeur, on a beaucoup de hauts gradés autour de ce plateau, hein, directeur de la fondation Robert Schuman, et Nicolas Grosvered, président ou même président directeur général du site internet Bruxelles de nous parlons de la Turquie avec ce sommet extraordinaire entre l'Union européenne et la Turquie pour gérer la crise migratoire ce lundi 7 mars ici à Bruxelles sous la forme d'un déjeuner. Alors déjà Sylvie Guillaume, un accord avec les Turcs ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qui serait un succès?
Comme tout accord, c'est ce qui va convenir au moins en partie à chacune des parties.
D'accord.
Donc dans le panier, je pense qu'il y a la question de l'accord de réadmission, c'est-à-dire comment les Turcs réadmettent sur leur territoire des gens qui ont franchi les frontières et qui ne sont pas fondés, qui sont en situation irrégulière à l'extérieur de la Turquie. C'est la question, je pense, de la libéralisation des visas. Les Turcs sont très demandeurs d'avoir quelques facilités pour pouvoir entrer sur le territoire de l'Union de façon plus facile et ça absoudre d'un certain nombre de démarches vis-à-vis des visas. Et je pense que du côté de l'Union européenne, une des revendications sera de faire en sorte que les Turcs soient plus actifs pour lutter contre les passeurs qui, depuis Izmir, Izmir, où on a substitué une économie du tourisme à une espèce d'économie du passeur et du passage, avec des choses qui sont assez étonnantes entre la construction de bateaux, de gilets de sauvetage et le départ toutes les 5 minutes de bateaux, alors que la marine, à mon avis, la marine turque est parfaitement capable d'éviter que les gens se noient en mer, parce que la réalité, c'est qu'ils n'arrivent jamais jusqu'au territoire grec.
Alors maintenant,
donc je pense qu'il y a une action déterminée qui sera demandée à la Turquie pour lutter contre les passeurs.
Alors maintenant, Nicolas, en fait, on a recours au service de l'OTAN en mer Égée. Dans quelle mesure a-t-on besoin de ces gardes-frontières européens dans cette zone? Et à partir de quand, s'il y avait vraiment un accord, vous parliez de juin tout à l'heure, à partir de quand serait-il sur le terrain?
Théoriquement, l'accord prévoit, enfin du moins l'optimisme parlant, fait que on veut, à partir de juillet, pouvoir mettre en place cette nouvelle agence de gardes-frontières. Vous avez raison de parler de l'OTAN, parce qu'on est revenu, pour moi, au début des années 90, quand on n'avait rien et qu'on était obligé de faire appel aux Américains pour aller faire de l'ordre et ramener de l'ordre en Yougoslavie. Les Européens, au bout de 25 ans, n'ont pas réussi à mettre un gramme de structure commune en marche pour avoir une solidité dans les frontières, parce que la défense, c'est d'abord d'assurer ses frontières. Si on n'est pas capable d'assurer sa défense, on ne parle d'assurer ses frontières, on ne parle plus de défense. Et les gardes-frontières, c'est certes un instrument de sécurité, mais c'est le premier instrument de défense. Les Français l'avaient proposé, donc là-dessus, les Français l'avaient proposé, toutes tendances confondues, donc ça a été une constante de tous les gouvernements français au niveau européen pour défendre la garde-frontière. Ça n'a jamais pu avoir et pu être mis en place, parce que certains ont eu peur pour leur souveraineté, certains ont eu peur d'avouer leur faiblesse, et finalement, ça s'est enlisé. Le dossier, au début des années 2000, il y avait quasiment le même projet qu'aujourd'hui. Et le projet s'est enlisé, au bout de 10 ans, il est parti dans les tréfonds du moins légiféré, moins d'Europe, moins de choses en commun. Et là, il y a eu une occasion perdue. Avec les gardes-frontières demain, on pourrait avoir, au lieu de demander à la Turquie d'assurer le rôle, les Européens pourraient venir en renfort d'un pays qui a des problèmes, parce que la Grèce ne peut décemment pas faire face toute seule.
Et si on parle chiffres, si on parle coûts, ça nous coûterait moins cher. En plus, si on travaille tous ensemble et qu'on a des gardes-frontières européens que l'on déploie avec un budget centralisé ici à Bruxelles, est-ce que on y trouve notre intérêt?
À condition que ces gardes-frontières, que ces gardes-côtes détiennent des pouvoirs, et qu'ils puissent envoyer dans un pays sûr comme l'est la Turquie ceux qu'on intercepte à mi-chemin entre les côtes, les rivages turcs et les îles grecques. Ce qui suppose un transfert de souveraineté à l'égard duquel les États membres de l'Union européenne ont manifesté plus que de la réticence. On a considéré que l'affaire des frontières extérieures, c'était l'affaire des États qui ont une frontière extérieure à l'Union européenne. On voit bien que ça ne marche pas.
Et pourquoi ça ne marche pas? C'est une question d'organisation, c'est une question de
parce
moyens.
Parce qu'on ne peut pas demander aux Grecs seuls, puisque toutes les migrations arrivent sur la Grèce ou sur l'Italie. Les Espagnols ont trouvé d'autres parades, mais on ne peut pas demander à la Grèce, là où il y a un vrai sujet pour la Grèce, c'est de voir si on ne peut pas trouver un accord concernant à la fois les difficultés financières budgétaires de la Grèce et le rôle qu'elle pourrait avoir pour assurer le contrôle de ses frontières.
Donc, est-ce que c'est aussi parce que la Grèce n'a pas les moyens de le faire?
Évidemment, on ne peut pas demander...
Donc, est-ce que nous, au niveau européen...
On ne peut pas demander aux États italiens et grecs de prendre en charge des migrations qui sont sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu.
Si nous, on les aide à les prendre en charge, in fine, ça nous coûte moins cher collectivement.
Évidemment.
D'accord.
Évidemment, c'est une nécessité absolue. Les Européens ont été très contents de supprimer les frontières intérieures parce que sans doute c'était des économies budgétaires. On supprimait des postes de douaniers, mais on ne s'est pas préoccupé des frontières extérieures. Et on a dit que c'était l'affaire de ceux des pays qui avaient précisément une frontière extérieure de l'Union Européenne. Ceci n'a pas de sens.
D'un autre côté, ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs. Je disais justement sur votre site, Nicolas Grovered, que pour certains pays de l'Est, en tout cas des pays du bloc d'ex-URSS, d'avoir des gardes-frontières communs, ça pose souci.
Le garde-frontière, dans la terminologie soviétique, était une police politique, directement rattachée à un corps central contrôlé par Moscou. Bien. Donc il y a une notion psychologique qui est légèrement un peu différente du garde-frontière, on va dire, psychologique, politique.
Il y a un sujet de gouvernement.
Mais sur le financement, c'est la réalité. Ce ne sera pas automatiquement un budget commun, mais ça permet en gros d'avoir... vous savez, vous êtes obligé d'avoir le niveau minimum de garde-frontière, Mais dès que vous avez un coup de surchauffe, vous avez le corps européen qui vient en renfort. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir un budget maximal de gardes frontières. Aujourd'hui, avec Schengen, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des budgets européens, de tous les pays confondus, ils ont diminué leur budget de surveillance des frontières. Ça a été une économie. Mais du coup, aujourd'hui, on n'a pas eu le supplément possible en cas d'intervention.
Charles de Marcy, est-ce que les Européens, à votre avis, sont capables de jouer collectif? Parce que là, on voit avec cette crise migratoire, les Européens qui passent de crise en crise, projet européen mis à rude épreuve, il faut le dire. Prenons l'exemple de l'Autriche. L'Autriche qui ferme ses frontières parce que des centaines de milliers de réfugiés qui, eux, veulent plutôt aller en Allemagne, passent par l'Autriche. Est-ce que les Européens sont capables de jouer collectif?
Ce genre de sommet où l'objectif du Conseil européen depuis 1974, c'était d'avoir en fait des chefs d'État de gouvernement qui jouent un rôle d'architecte. Aujourd'hui, il ne joue plus du tout ce rôle d'architecte, de prévision, d'anticipation, d'essayer de construire quelque chose.
Il joue les pompiers.
Il joue les pompiers, et ça va être encore le cas la semaine prochaine.
Et en plus, comme disait Jean Arthuis, il joue les pompiers et en essayant de négocier le prix de l'eau.
En plus. Donc théoriquement, en pratique, le temps est beaucoup trop long. Ça répond évidemment pas aux urgences qui d'abord est une urgence humanitaire. Et puis d'un point de vue structurel, Schengen, c'est aussi la confiance mutuelle, réciproque entre les États membres, de s'assurer ou en tout cas de faire confiance à ceux qui sont justement à la périphérie, qui doivent assumer cette responsabilité. Et lorsque vous avez des États défaillants, et c'est le cas de la Grèce, là, il y a une responsabilité des autres États. Ouais. Soit à ce moment-là, lui dire, c'est fini parce que vous respectez pas en fait notre accord et vous n'êtes pas capable de le faire, ou alors de pouvoir suppléer et d'apporter justement cette aide. Et c'est ce qu'on fait maintenant, mais avec franchement deux ans et demi au minimum de retard.
Alors surtout qu'on parle toujours de sommet crucial, etc. Là, il est crucial parce que l'heure tourne. Quand même, Sylvie Guillaume, on voit qu'avec le climat qui s'améliore, avec le printemps qui arrive, les traversées vont être de plus en plus nombreuses. Donc il faut absolument arriver à un accord maintenant.
Elles seront plus nombreuses, passeront par des routes qui seront plus dangereuses, elles seront plus coûteuses, justement encore pour les passeurs. Et il y a un autre sujet qu'il faut avoir en tête aussi, parce que dans cette géographie, il y a aussi la route des Balkans. Et vous avez bien eu connaissance aussi de ces phénomènes qui se sont mis en place ces derniers jours, où les uns après les autres, les Balkans ferment leurs propres frontières. Donc ce à quoi on va aboutir, c'est finalement une Grèce économiquement totalement déprimée, qui a reçu énormément de migrants et qui ne peut en aucun cas... Ouais. Faire sortir des migrants nulle part. Donc une sorte de blocage intérieur avec des centaines de milliers de personnes à l'intérieur de la Grèce, donc une impossibilité à réagir seule. Donc je pense que s'il doit y avoir aussi un autre sommet, il faut aussi parler de cette question des Balkans. Et la deuxième chose dont il faut parler, c'est que chacun, je redis une deuxième fois, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est bien joli de dire à un tel, aux Balkans, à la Grèce, à la Turquie, de prendre ses responsabilités. Les États membres doivent prendre leurs responsabilités aussi. Alors, s'ils ont à faire quelque chose de bien, il y a quelque chose, pas de facile, mais de bien à faire, c'est de faire de la réinstallation. C'est un dispositif qui existe déjà, qui peut se mettre en place, où on va prendre en charge des personnes qui sont déjà répertoriées et qui peuvent aller s'installer dans d'autres États membres. Qu'ils fassent au moins ça en termes de responsabilité individuelle.
Jean-Arthuis, la réinstallation, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, on va trouver des crédits en prenant sur la ligne de crédit qui était prévue pour les réinstallations. On avait prévu de réinstaller 140 000...
Non, ça, c'est la relocalisation. C'est pas la même chose. Là, la relocalisation, c'est des gens qui sont déjà répertoriés, qui sont à l'extérieur de l'Union et qui peuvent être amenés dans les États membres. La relocalisation,
ça, il y en avait 20 000 seulement.
C'était 20 000 plus 140 000.
Plus 140 000,
ça faisait 160 000.
Qui était sur place.
Là, la réinstallation, c'est un autre
phénomène. Mais en tout cas, ce qui est clair, utile. C'est qu'on ne prend pas de décision. On a reporté, on avait un sommet qui était consacré au Brexit, on a perdu 3 semaines en quelque sorte. Or, chaque jour, il y a entre 3 et 4 000 migrants qui franchissent à nouveau les frontières.
Il faudra organiser demain un sommet sur les Balkans, parce que les Balkans sont des pays très fragiles. La Macédoine est un pays très fragile qui est au bord de l'explosion.
Il y a un effet domino.
D'autres sont très fragiles. L'Autriche avait prévenu. Elle a présenté un plan en novembre, on l'a refusé. Donc tout ce qui arrive est relativement prévisible par les États, simplement on n'a pas voulu prendre des responsabilités à un moment donné. Demain, c'est les Balkans.
Nicolas Grosvered, vous restez avec nous, ainsi que Charles de Marcy et Jean Arthuis pour la suite de l'émission. Notamment Maya de la Baume de Politico va nous rejoindre pour ses coulisses de l'Europe, ainsi que Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, pour sa revue de presse. Merci beaucoup Sylvie Guillaume, eurodéputée socialiste, vice-présidente du Parlement européen, d'avoir été avec nous. À très bientôt.
BFM Business, 500 millions d'Européens avec Euronet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Toujours avec nous Jean Arthuis, eurodéputé UDI, président de la commission des budgets, Charles de Marcy de la fondation Robert Schuman, Nicolas Gros-Vered du site internet spécialisé dans la question de défense, Bruxelles 2, et bonjour Maya de la Baume,
bonjour,
de Politico pour les coulisses de l'Europe. On va poursuivre la discussion en vue du sommet de ce lundi entre l'Union européenne et la Turquie. De quoi allez-vous nous parler ?
Du marathon sur la Turquie en ce moment à Bruxelles.
D'accord.
Ça s'active beaucoup.
Ça s'active énormément depuis lundi soir et même ce week-end. Et puis, nous serons rejoints dans quelques instants par Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International. Avec lui, il va nous faire voyager comme à son habitude, Éric Scholl. On va aller en Suisse, en Russie, en Turquie et en Italie. Voilà les coulisses de l'Europe et la revue de presse européenne. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Eh oui, pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec 500 millions d'Européens et avec Politico. Alors Maya, dans Politico, cette semaine, vous nous parliez de cette course contre la montre pour sauver la politique européenne de migration.
Oui, c'est un vrai marathon en ce moment sur la migration. Enfin, vous me direz, ça a été un marathon depuis ces derniers mois, mais là particulièrement parce qu'on enchaîne un peu le Conseil européen il y a quelques semaines. On a eu un G5 hier. Alors, vous savez, le G5, c'est ce sommet tenu dans un...
On en avait parlé, donc
tenu
le président
dans un
de la
hôtel
Commission européenne,
les leaders des groupes,
du Parlement, les leaders des groupes.
Timmermans, qui est le vice-président de la Commission. Alors, il y a eu ce sommet qui est... En règle générale, quand il y a un G5, c'est que les choses sont quand même assez importante.
D'accord.
Et là, la migration a été au cœur, on cherche des alternatives et surtout, on essaye de se comprendre comment appliquer une politique européenne qui est en ce moment en fait mal vue et difficilement applicable. Et du coup, on cherche des alternatives, la réexamination des accords de Dublin. Enfin voilà, on rentrera pas dans les détails, mais en ce moment à Bruxelles, on sent qu'il y a cette espèce de surchauffe. On enchaîne les meetings. Il y a un prochain conseil pour la Turquie. Il y a ensuite le Conseil européen du mois de mars. Tout s'active et à côté de ça, on a un commissaire européen, Avramopoulos, qui travaille sur les questions de migration, qui nous dit quasiment tous les deux jours que l'Europe est sur la tangente, qu'on risque tout, que Schengen peut à un moment donné s'anéantir. Et du coup, on est comme ça, nous, en tout cas dans notre rédaction, ma rédaction, très agitée par tout ce qui se passe en ce moment sur la migration.
Vous pensez, Charles de Marcy, que Schengen est véritablement en danger ?
Tous les jours, un petit peu plus, oui. Parce que vous avez des visions unilatérales, parfois même régionales, si on prend Visegrad, et indépendamment d'ailleurs des questions politiques, parce que ce sont des gouvernements tant de gauche que de droite, parce que ça touche en fait les questions presque de l'intime de chaque population, sa perception de la migration, de la solidarité. Et donc, Juncker parle de polycrise, mais on pourrait presque désormais parler de poly-européen et de la perspective en fait du projet européen. Donc c'est assez inquiétant, oui, parce qu'on voit pas de solution à court terme. Est-ce que vous soulignez justement cette agitation ? Il y a quand même beaucoup de communication, il y a beaucoup de volets un peu de mise en scène, alors que les réponses qui vont être apportées, que ce soit pour la Turquie, il y a pas grand-chose qui va changer par rapport au mois de décembre dernier. Par rapport à octobre de l'année dernière, là aussi, avec le sommet Union européenne-Turquie, on est quand même toujours dans la même lignée. Et si on regarde les propositions de la Commission européenne, les trois quarts avaient déjà été mis sur la table en mai de l'année dernière. Et on essaie toujours d'être sur la mise en œuvre. Donc il y a un peu de communication pour accélérer et puis rendre un peu les gens et les journalistes nerveux. Mais en pratique, on a le sentiment que ça avance pas très vite.
Jean Arthuis, vous partagez ce constat que finalement il y a du teasing pour rendre tout le monde nerveux et pour essayer d'arriver à des résultats, mais que ça n'avance pas.
Je sais pas, mais ce que je crois, c'est que les institutions européennes démontrent ici toutes leurs limites. Tout est fait pour une navigation en eau très calme, avec un budget qui est anachronique et qui est enfermé dans un tunnel de 7 années. On coupe chaque année une tranche pour redistribuer 80% des crédits aux États membres. Et chacun vérifie qu'il a bien récupéré ce à quoi il a droit, au titre de la PAC ou au titre des fonds de cohésion. Dès que survient une crise, on n'a aucun moyen. Et on voit les chefs d'État et de règlement se gratter la tête. Ici, on a affaire à une crise sans précédent et on est incapable de
prendre... Vous parlez de laquelle, migratoire? Parce que
migratoire,
que ce soit la crise financière, elle était sans précédent depuis 1929. La crise migratoire, je pense pas qu'on ait eu une telle crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, tout le monde tire sur l'Europe et le projet européen, alors que les crises viennent toutes de l'extérieur.
C'est tellement commode. Les chefs d'État et de gouvernement ont gardé pratiquement toutes leurs prérogatives. Et donnent comme mission à l'Europe de faire comme si l'Europe existait. Et quand vient le temps de la décision, alors là, panique à bord, procédure, et on est incapable d'être réactif. Et on donne en spectacle une impuissance pathétique qui déchaîne l'exaspération des citoyens. Et les chefs d'État et de gouvernement, qui eux-mêmes n'ont plus les moyens d'assumer leurs prérogatives de souveraineté, mettent en cause l'Europe et en font le bouc émissaire de leur incapacité à faire face à des situations de crise. Alors moi, je pense que tout ceci doit peut-être sonner la fin d'une époque. Jusqu'à maintenant, c'était la méthode de Jean Monnet, Schuman, les petits pas. Il va être temps de trouver un architecte et de savoir, à l'heure de la mondialisation, quelles sont les prérogatives qui doivent être exercées au plan européen.
Nicolas Gros.
Je trouve que Maya est très optimiste. Moi, je ne sens pas une atmosphère vraiment où ça travaille beaucoup. Si vraiment il y avait une crise, il y aurait une réunion en permanence de la commission. Il y aurait une réunion en permanence où toutes les commissions, deux jours, deux nuits. Et quand il y a une crise, quand on s'est planté sur le plan, parce que le plan de la commission, il est planté. Donc, il faut le reconnaître. Il est planté. On en fait un autre. Ça arrive partout. Les États, eux-mêmes, changent de stratégie. Du jour au lendemain, la France a changé de stratégie sur la Syrie. Elle s'est aperçue que Bachar, elle n'arriverait pas à le tuer. Donc, elle a dit que Bachar, bah, il resterait faute de mieux. Donc, les Européens sont incapables...
De se remettre en question.
De se remettre en question, mais surtout rapidement, de décider rapidement. Là, c'est pas une question. La crise.
Quand vous dites les Européens, c'est les Bruxelles et européennes. La Commission européenne.
Les structures européennes, il faut à un moment donné prendre le taureau par les cornes. Après, on peut dire, j'ai tenté, j'ai pas réussi, mais pour l'instant, on n'a rien tenté. On a tenté la méthode habituelle. Je présente un projet, je vois comment il vogue, je fais pression, etc. Ça, c'est la méthode habituelle, c'est pas une méthode de crise. Il y a une crise, on sait pas gérer la crise.
Voilà. Il faut prendre le taureau par les cornes, selon Nicolas Gros. Or, on sait que...
On demande aux Turcs de garder une frontière.
Entre taureau et Europe, c'est pas Europe qui a gagné.
Et de faire vis-à-vis de l'espace Schengen, de la Grèce, ce que la France fait à Calais pour l'accès des migrants en Grande-Bretagne. Comme si on se défaussait d'une responsabilité en donnant un peu d'argent aux pays voisins. Enfin, c'est assez peu convaincant.
Maya.
Mais justement, je suis d'accord avec vous, et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'agite beaucoup justement pour pas grand-chose à la fin. C'est-à-dire qu'au niveau de la substance, on est sur un rien de nouveau, on a exactement ce qu'on avait déjà sur la table avant, et on s'agite dans tous les sens. Et c'est ça, que c'est un peu ça aussi, les institutions, de temps en temps.
Voilà, course contre la montre européenne pour sauver la politique européenne de migration, mais visiblement, bon, on fait des grands mouvements de bras, mais tout ça pour pas grand-chose. On verra avec ce sommet, ce lundi, avec la Turquie sur la crise migratoire, et puis encore un sommet en mars, 18 et 19 mars, toujours sur la politique d'immigration, mais cette fois sans la Turquie. Merci Maya Delaboum, vous restez avec nous pour la revue de presse d'Éric Scholl.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors, vous êtes là en ligne depuis la rédaction de Courrier International. Vous avez des milliers de journaux, d'articles sur votre bureau qui peuplent votre salle de conférence de rédaction, et vous avez choisi 4-5 articles juste pour nous. D'abord, parlons de la France, vue de Suisse, ces agriculteurs que l'Europe étouffe.
Oui, c'est un article du Temps, et en fait c'est même un reportage. Un journaliste du journal suisse, donc Le Temps, est allé se promener dans l'Aisne. Alors vous savez, l'Aisne, on ne connaît pas toujours très bien, un grand département agricole où on retrouve toutes les agricultures françaises. Et c'est ça qui a beaucoup intrigué ce journaliste, c'est ce mélange entre les grands céréaliers, les betteraviers du Soissonnais, les éleveurs laitiers de la Thiérache, les viticulteurs du Champenois et aussi les paysans bio. Eh bien, l'ensemble de ces agriculteurs, il est allé les voir et il a constaté une chose, c'est qu'effectivement, il y a ce sentiment de crise. Au fond, il parle d'une agonie programmée, d'un monde paysan broyé par la modernité. Et il a été interviewé, interrogé des agriculteurs, et ceux-ci lui disent... tout le monde s'en fout. Et c'est ce sentiment-là qui ressort dans ce reportage. C'est à la fois un peu triste et en même temps tellement en phase avec ce qu'on a pu voir de ces cris de colère au salon de l'agriculture.
Tout le monde s'en fout et en même temps, dans d'autres pays européens, il y a eu d'importantes restructurations ces dernières années, notamment depuis 2003, à l'époque où on savait qu'il y aurait la fin des quotas. Or, en France, visiblement, on ne s'y est pas suffisamment préparé, Jean Arthuis. Non, pas tout le monde s'en fout. C'est plutôt qu'il y a un manque de préparation.
Il y a un manque de préparation. Il y a le fait que l'Europe édicte des règles, mais qu'on laisse à chaque État membre le soin d'appliquer ces règles et de vérifier le respect de ces règles. Et ceci crée des ruptures dans la concurrence loyale. La France a également des réformes à faire. Par exemple, on finance la protection sociale par des charges assises sur le travail, ce qui est de nature à renchérir le coût du travail et à pousser à la délocalisation d'activités. Il risque de se passer dans le monde de l'élevage. Le monde de l'élevage incorpore beaucoup de main-d'œuvre directement dans les exploitations, mais aussi dans les laiteries, les abattoirs, les ateliers de transformation. Donc si on ne fait pas ces réformes en France, la compétitivité aura du mal à suivre. Pour le reste, je pense qu'il faut que l'Europe quand même se ressaisisse un peu, car l'agriculture, c'est pas tout à fait l'ouverture totale au monde. On a créé la PAC parce que on voulait assurer l'autonomie alimentaire des Européens. Les problèmes sont les mêmes en matière d'énergie. Et sur ces questions, je pense que le temps est venu d'imaginer ce que pourrait être demain une politique agricole commune, avec notamment des systèmes assurantiels pour éviter les chocs majeurs lorsqu'il y a surabondance de produits par rapport au marché.
En tout cas, le problème est un des problèmes des agriculteurs en France en ce moment et en Europe, c'est l'embargo russe. Alors justement, Eric, Russie, quel avenir pour les relations Union européenne-Russie ?
Alors c'est le journal Gazeta, le journal en ligne Gazeta Rue, qui s'interroge et vraiment une longue analyse sur ce partenariat, sur ces relations entre Bruxelles et Moscou. Vous savez, il existe, et le journal revient dessus, un partenariat stratégique avec la Russie qui a été mis en place en 1994. Et ce partenariat, au départ, ce qu'il avait animé, eh bien, ça remonte du temps de Gorbatchev, c'était l'idée de cette grande maison européenne qui était née avec la chute de l'Union soviétique. Et au fond, le journal aujourd'hui, le journal russe, il est extrêmement pessimiste. Il explique que, au fond, la Russie ne veut plus faire partie d'une Europe unifiée, tandis que l'Europe unifiée est fatiguée de s'élargir. Et donc, c'est cette idée d'éloignement entre Moscou et Bruxelles qui ressort dans cet article, avec une Europe en crise telle qu'elle est vue, en tout cas de Moscou, puisque le journaliste parle d'une Europe telle qu'elle a cessé d'être un espace de stabilité. D'abord parce que l'Union européenne, et je cite l'article, ne peut pas et ne pourra pas se protéger des terribles crises qui secouent le Proche-Orient. Et le journaliste continue et il insiste sur toutes ces crises, des crises à l'intérieur du projet européen, mais aussi entre les différents pays membres. Il insiste bien sûr sur le problème des réfugiés qu'il constate l'incapacité des pays européens à trouver une solution. Et il conclut, et j'en reviens à ce sujet sur les relations entre Bruxelles et Moscou, sur les risques d'effondrement de ce qu'on a voulu appeler jadis la Grande Europe. C'est franchement assez pessimiste et on est très loin du partenariat d'il y a 20 ans.
Charles de Marseille.
Deux choses. La première, c'est que le conflit ukrainien et en Crimée a montré aux Européens qu'on pouvait avoir un conflit armé au moins sur le continent européen. Et je crois que ça, on avait quand même oublié. Donc ça a rappelé à une certaine génération, bah oui, que c'était pas un acquis, cette question de paix et de sécurité. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est que les mesures de rétorsion, de blocage qu'il y a eu par rapport à l'économie russe ont eu un impact, puisqu'on voit plutôt une demande du côté russe de pouvoir lever ces fameuses sanctions. Mais ça a aussi un impact du côté européen, notamment pour les agriculteurs. Et donc, ces mesures, tant diplomatiques qu'économiques, n'ont pas un coût neutre. Et on voit que ça progresse, que ça avance, mais on est toujours sur un conflit, en tout cas larvé, en Crimée.
Nicolas ? L'analyse du journal russe est pas fausse, je dirais. Il y a eu une période russe, on va dire, avant 2010, où la période Medvedev ou Poutine s'en remontait plus loin, qui misait sur l'Europe pour avoir une alliance, en fait, Europe-Russie. Aujourd'hui, clairement, l'ambition de la Russie, c'est pas de détruire l'Europe, mais c'est au moins de la rendre inqualifiable, de la neutraliser, et voire de la surmonter. Ce que l'on voit, ce qui se passe en Syrie, c'est que les Russes négocient directement avec les Américains, mais ils s'en foutent totalement des Européens. Alors que sur les négociations sur l'Iran, il y avait des partenaires dont les Européens, même les Européens, assuraient la maîtrise. En 2008, lors d'une intervention armée russe en Géorgie, les Russes ont accepté l'intervention en fait européenne à titre de médiateur. Aujourd'hui, il la refuse en Ukraine. Il y a un changement russe.
Ce qui explique aussi peut-être dans cette relation entre Moscou et Bruxelles, ce qui explique que le Kremlin parfois finance indirectement des partis eurosceptiques européens.
L'Union européenne est vue comme un ennemi parce que c'est quelque chose de démocratique qui peut renverser le pouvoir.
Éric Scholl, vu qu'on parlait de la Turquie dans cette première partie d'émission, vous avez souhaité revenir justement sur ce cas turc avec les problèmes de liberté de la presse là-bas et ces deux journalistes libérés, une décision historique.
Une décision historique et une décision évidemment qu'il faut saluer puisque, et c'est le journal Cumhuriyet, vous savez c'est ce fameux journal dont le rédacteur en chef et un de ses collègues avaient été emprisonnés il y a 3 mois et qui viennent d'être libérés. Ce journal salue la décision de la Cour constitutionnelle, ça date du 26 février, une décision donc historique de la part de la Cour constitutionnelle qui estime que le droit des deux journalistes avait été bafoué. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, franchement on était très pessimiste sur le sort de ces deux journalistes qui étaient accusés donc d'espionnage. Ça montre qu'il y a quand même des juges, explique le journal, et qu'il y a peut-être quand même un début d'état de droit, on l'espère en tout cas en Turquie. C'est plutôt une nouvelle rassurante dans venant de Turquie qui nous a ces derniers mois beaucoup déçus.
Vous vouliez nous parler pour conclure de cette lettre ouverte à la génération Erasmus.
Elle nous vient d'Italie, du journal Espresso, qui fait le constat que Schengen va très mal, et qui dit finalement, qui nous explique que ce sont les jeunes qui ont peut-être le plus profité l'espace Schengen. Les jeunes, c'est-à-dire la génération Erasmus. Et donc, le journal lance un appel à cette génération et leur dit, chers jeunes Erasmus, faites quelque chose, descendez dans la rue, sans brandir d'autres drapeaux que celui de l'Europe, faites la queue aux frontières françaises, allemandes ou autrichiennes, sans présenter vos papiers d'identité. Laissez-vous arrêter et enregistrer par la police et continuez à former une file interminable de jeunes Européens déterminés à ne pas se laisser refouler. On ne peut pas incarcérer une génération tout entière.
Faites quelque chose, en gros.
C'est le message de l'Espresso adressé à tous les jeunes Erasmus.
Maya, est-ce que vous vous sentez concernée?
Je me sens concernée par ce papier parce que moi je suis de la génération Erasmus, c'est la génération des trentenaires. Qui, pour nous, l'Europe, c'est Erasmus, d'une certaine façon. C'était une des réponses concrètes. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de voix, peut-être, justement, pour défendre à ce niveau-là.
Et vous, Jean-Arthur, qui proposait notamment un Erasmus pour des apprentissages.
Et de lancer une expérimentation. Et la Commission a publié hier l'appel à proposition pour une expérimentation de l'Erasmus des apprentis. De telle sorte que les apprentis puissent passer une année hors de leur pays d'origine. Mais ça n'est pas simple, parce que 28 pays, 28 réglementations de l'apprentissage. Merci. Donc on voudrait, avec l'expérimentation, identifier les problèmes.
Merci beaucoup Jean Arthuis, président de la commission des budgets, d'avoir été avec nous. Merci Maya de la Baume de Politico. Merci Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Et Nicolas Grosvered du site internet spécialisé sur les questions de défense et de sécurité Bruxelles 2. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, excellente fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.